Diddy tenait sa cellule de crise. Le lien désormais établi entre les Harrington et la famille Larraquette Solis via le service de pédopsychiatrie, puis la mort d'un autre enfant au sein de ce même service, avait réussi à retenir l'attention du commissaire divisionnaire. D'enquêtrice extrêmement paranoïaque, Diddy avait été promue au rang de sacrée petite maligne. Le fait que les médias n'aient pas manqué de déceler le potentiel sensationnel de ces deux tueries abominables en l'espace de 2 jours avait aussi joué en sa faveur. La presse n'avait pas encore fait le rapprochement entre les meurtres, mais elle consacrait suffisamment de place aux deux tragédies pour que le commissaire comprenne l'opportunité de clore ses enquêtes sans tarder. Diddy eut donc la chance de se voir accorder 10 enquêteurs pour l'affaire de l'hôpital. Elle eut aussi la chance de se réveiller dans les bras d'un bel homme. Comme son fichu beeper était en train de sonner, ils partagèrent une demi-douzaine de beignets avec glaçage plutôt qu'une demi-douzaine d'étreintes sexuelles torrides. Mais ça restait quand même sa meilleure matinée depuis des années. Elle avait le sourire lorsqu'Alex la reconduisit au service psychiatrique. Peut-être même qu'elle sifflotait quand ils traversèrent le hall pour prendre l'ascenseur jusqu'au 7e. Ils sortirent devant les portes vitrées du service psychiatrique et tombèrent sur Andrew Lightfoot en pleine conversation avec l'agent de sécurité. « Qu'est-ce que vous foutez là ?» s'exclama Diddy. « Je travaille, » dit-il. « Vous ne sentez pas ça ?» demanda-t-il en montrant son avant-bras couvert de chair de poule. « Mauvaise onde !» murmura-t-il lorsqu'ils entrèrent dans le service. « Vous feriez mieux de retrouver l'ange qui est en vous, commandant. Parce que, croyez-moi, la garce qui est en vous ne fait pas le poids à côté de ce qui se passe ici. » Diddy et son équipe prirent leur quartier dans leur salle de classe préférée. Ils étaient armés de mandats de perquisition et savaient s'en servir. Dans les 24 heures à venir, Diddy prévoyait de recueillir les premières dépositions de toute l'équipe du service. De leur côté, au QG, Phil se renseignait sur les antécédents de chacun et Neil dressait la liste des autres membres du personnel de l'hôpital. Médecins, thérapeutes, gardiens, personnel de cantine et autres chamans qui fréquentaient régulièrement cet étage. 2 autres enquêteurs recevraient pour mission d'éplucher cette liste, de localiser chacun, de procéder à un premier interrogatoire et de vérifier les antécédents. C'était la technique classique du mitraillage tous azimuts, pas de détails. Ça ne dérangeait pas Didi. Elle était sur la piste d'un gros gibier et s'en réjouissait. L'hôpital, cela va sans dire, avait dépêché son avocat pour superviser les opérations. Mais comme c'était un magnifique dimanche après-midi et que la plupart des associés de haut vol se promenaient sur leur yacht, une poulette en tailleur-pantalon Anne Taylor bleu marine avait tiré le mauvais numéro. Elle fit mine d'examiner les mandats de perquisition un par un en prenant le temps de regarder chaque mot à la loupe avant de rendre les documents avec un sec. C'est bon. Elle plaisait déjà à Didi, le genre d'as du barreau qui présente bien mais qui n'a aucune expérience. Et dont un commandant de la criminelle ne ferait qu'une bouchée. L'équipe de Didi se mit au travail, s'installa pour conduire des interrogatoires et se prépara à faire de nouvelles photocopies des dossiers. Satisfaite de la marche des opérations, Didi se mit en quête de leur première cible de choix, Andrew Lightfoot. Elle le trouva dans la chambre de la petite morte. Le matelas solitaire était toujours au milieu de la pièce. Andrew était assis en tailleur devant lui, pieds nus, les yeux fermés, les mains sur les genoux, paume vers le haut. Il bougeait les lèvres, mais aucun son ne sortait. Didi fit le tour jusqu'à se trouver face à lui. À l'instant où l'ombre de Didi toucha son visage, Lightfoot ouvrit les yeux et la regarda. Il ne semblait pas surpris de sa présence soudaine, et cela énerva suffisamment Didi pour qu'elle entame les hostilités. « Pourquoi vous ne nous avez pas dit que vous travaillez ici ?»«
Ce n'est pas le cas. »
Didi s'étonna, montra la pièce autour d'elle. « Et pourtant, vous êtes là. » Lightfoot se leva dans un mouvement fluide. « Karen m'a demandé de venir. Le service est en crise, les énergies déséquilibrées. Elle m'a demandé de pratiquer un exercice de purification et d'intervenir auprès de son personnel. Alors me voilà. » « Karen, la surveillante, elle vous a engagé. » Tout le monde n'est pas sceptique comme vous. Il affichait un sourire patient, ce qui redoubla l'énervement de Didi. Vous vous connaissez depuis combien de temps ?
2 ans.
Relation personnelle ou professionnelle ?
Professionnelle.
Comment vous êtes-vous rencontrés ? Par l'intermédiaire d'une famille. Les parents m'avaient demandé d'intervenir auprès de leur enfant qui avait été admis ici. Karen a été impressionnée par les progrès de l'enfant.
Elle m'a demandé de pratiquer quelques exercices de méditation et de stimulation des énergies avec son équipe. De temps en temps, elle recommande aussi mes services à d'autres familles. Elle vous aime bien ?
Elle croit en ce que je fais.
Vous êtes riche et séduisant, j'imagine que ça ne nuit pas.
Vous me trouvez riche et séduisant ?
Demanda-t-il avec un nouveau sourire.
Je vous trouve suffisant et arrogant,
rétorqua Didi. Le sourire de Lightfoot s'épanouit encore. On ne se refait pas.
Il vous est arrivé de sortir ensemble, Karen et vous ?
C'est une relation strictement professionnelle, commandant. J'apporte mon aide à elle et à son équipe. Elle recommande mes services.
Est-ce qu'elle vous a recommandé au Harrington ?
Ce patient-là est arrivé par un autre biais.
Quand avez-vous vu Ozzy pour la dernière fois ?
Il y a 3 mois.
Etika ?
Je ne connais pas cet enfant.
Pourtant, vous savez que c'est une enfant,
l'attaqua Didi. Lightfoot la regarda sans se troubler.
Nous parlions d'enfants, donc j'en ai déduit que Tika était une enfant.
Vous avez l'air en colère, commandant.
Nous devrions sortir de cette chambre. Elle ne vous vaut rien.
Sans lui laisser le temps de répondre, il se tourna vers la porte. La manœuvre força Didi à le suivre, ce qui, tout bien considéré, la mit encore plus en colère.
Nous allons passer dans la salle de classe, commença-t-elle d'un air pincé.
Voilà, c'est parfait, déclara Lightfoot comme si elle n'avait rien dit. Il s'était immobilisé devant l'immense fenêtre du bout du couloir.
Ici, dans le rayon du soleil, vous passez trop de temps sous les néons, commandant. Vous manquez de vitamine D.
Didi le regarda avec de grands yeux.
Je suis guérisseur, expliqua tranquillement Lightfoot. Ce n'est pas parce que vous n'y croyez pas que je vais changer de personnalité.
Il vous est arrivé de travailler avec un enfant qui se tailladait ? Demanda Didi.
Qui s'automutilait, vous voulez dire ?
Pas dernièrement.
Karen vous a recommandé auprès d'une telle famille ?
Non.
Quelle a été la dernière famille à laquelle elle vous est recommandée ?
Je ne m'en souviens pas bien. Je ne garde pas ces choses-là en mémoire, dit Lightfoot.
Méfiante, Didi l'observa un instant. D'aussi près, elle voyait de profondes cernes sous ses yeux, une pâleur sous son bronzage. Apparemment, elle n'était pas la seule à manquer de vitamine D.
Vous êtes couché tard hier soir ?
Il hésita.
Je me couche tard depuis que vous êtes passé chez moi. J'avais prévu de prendre encore quelques jours de congé, mais ça ne se fera pas.
Pourquoi ?
Il se tourna vers la fenêtre, parut observer le soleil. Didi fut interloquée de voir qu'il était parcouru de légers frissons et que ses bras nus étaient toujours couverts de chair de poule.
« J'ai passé les 2 dernières soirées dans les espaces interstitiels, »
finit-il par répondre.
« Comme j'ai essayé de vous l'expliquer au téléphone, la menace est imminente. Je la sens. Vous connaissez l'expression « des ténèbres plus noires que la nuit » ? »
Didi hocha la tête sans cesser de l'observer.
Je n'avais jamais compris ce que ça voulait dire, mais maintenant je sais. Une menace terrible rôde là-bas, dehors. À moins qu'elle ne soit ici maintenant.
Brusquement, Lightfoot posa ses doigts sur la joue de Didi.
Malgré elle, Didi en eut le souffle coupé. Les doigts de Lightfoot étaient comme de la neige carbonique sur sa peau, si froid qu'il la brûlait presque. Elle recula instinctivement.
Le guérisseur hocha la tête.
Les énergies négatives provoquent une sensation de refroidissement intense. Mais je suis un guérisseur expérimenté et puissant. Je devrais donc pouvoir combattre ce froid. Je devrais pouvoir réchauffer mes mains. Mais depuis que je suis entrée dans le service, je n'y arrive pas. Une menace terrible règne ici. Elle prend sa source dans la chambre de Lucie, mais se répand déjà dans tout l'étage. Une source froide, malveillante. Des ténèbres plus noires que la nuit. Lucie n'y a pas survécu. Et nous ne pourrions pas non plus, je pense. C'est pour ça que je vous ai demandé de quitter la pièce et de me rejoindre ici, au soleil.
Parce qu'un grand méchant loup céleste s'en est pris à Lucie ?
Je suis fatiguée, dit Lightfoot comme s'il était important que Didi comprenne ça. J'ai dépensé d'énormes quantités d'énergie dans les espaces interstitiels toutes les nuits. Ensuite, il a fallu que je m'occupe des exercices de guérison pendant la journée. Et maintenant, j'essaie de purifier ce service de la corruption dont il est atteint. Je suis épuisée, pas à mon maximum aujourd'hui. Je regrette de ne pas pouvoir en faire plus pour vous protéger.
Comment ça ? Demanda Didi en regardant autour d'elle. Vous êtes en colère, continua Lightfoot. Vous êtes blessé. Si les circonstances étaient plus favorables, je vous aiderais à vous recentrer, à renforcer vos défenses. Mais pas cet après-midi. D'accord ? Dit Didi d'une voix hésitante, avant d'essayer de remettre le guérisseur sur les rails. Parlez-moi de Daniel Burton. Vous m'avez dit que sa souffrance vous interpellait. On dit toujours que les médecins font les pires patients. C'est pareil pour les infirmières en psychiatrie. Je connais Daniel depuis que je travaille dans le service. J'aimerais l'aider. Malheureusement, son scepticisme est à l'image du vôtre. Elle refuse de travailler avec vous ? Il haussa les épaules. C'est pour ça que j'accepte de vous parler. Ce n'est pas une cliente, et dans son esprit, même pas une amie. Mais je m'inquiète pour elle. Pourquoi ? C'est une vieille âme, répondit-il d'un air plus lointain, comme s'il apercevait quelque chose que lui seul pouvait voir. Depuis des siècles, elle revient dans ce plan d'existence et toujours elle cherche, sans jamais trouver. Elle attise sa haine, alors qu'on n'a que l'amour. Ça me rappelle une vieille chanson, dit Didi. Elle n'avait pas pu s'en empêcher. Vous voulez parler de réincarnation ? Je parle d'un apprentissage par l'expérience. Son âme est attirée dans ce plan pour y apprendre ce qu'elle a besoin d'apprendre, mais elle n'a pas compris la leçon. Et tant que ce ne sera pas le cas, elle sera vouée à la répétition. Malheureusement, d'autres âmes sont aussi concernées. Leur vie est inextricablement liée à la sienne, et son incapacité à aller de l'avant les condamne toutes à un cycle de violence qui se répète indéfiniment. J'ai essayé de lui expliquer, mais... Son père, suggéra Didi. Ce serait cohérent. Didi plissa les yeux. Intéressant comme réponse, se dit-elle. Elle commençait à se rendre compte que, derrière le folklore de la sorcellerie, Lightfoot surveillait de près ses réponses. Et d'un seul coup, elle comprit. Vous voulez parler de Greg, le prof de gym ? Vous vous inquiétez de sa relation avec Daniel ? Il demande. Elle refuse. Il a besoin. Elle rejette. Il cherche toujours l'amour. Elle choisit toujours la haine. Il tourne en rond indéfiniment. Greg a l'air d'un gars sympa, objecta tranquillement Didi. Il tourne en rond indéfiniment, répéta Lightfoot, l'air à la fois fatigué et attristé. Il ne fit aucune tentative pour rompre le silence, et au bout de quelques minutes, elle s'avoua vaincue. Ça vous manque des fois ? Demanda-t-elle. Quoi ? L'argent, la grosse cylindrée, le faste de votre ancienne vie ? Jamais. Ça devait vous procurer de bonnes doses d'adrénaline, de lever des jolies filles, de gagner du fric à l'appel, d'écraser vos concurrents. Vous êtes passé de tout ça à ici. Wall Street n'est qu'un terrain de jeu. Il n'y a pas de récompense qui ait du sens, pas de conséquences importantes. Alors que là-bas, dit Lightfoot en montrant la porte ouverte sur la chambre de Lucie, là-bas, je me bats pour gagner. Comme pour faire la démonstration de ce qu'il disait, le guérisseur s'éloigna dans le couloir. Il s'arrêta devant la pièce. Didi le vit frissonner avant d'entrer. Lightfoot étant retourné à ses opérations de purification spirituelle, Didi fit un tour dans le service et découvrit la surveillante, Karen Rober, dans la salle commune, avec un petit garçon qui se remettait de toutes ses émotions en écrasant des fruits dans un saladier. L'enfant leva les yeux à son arrivée, et elle se souvint l'avoir vu le premier jour. Un des trois gamins qui aimait les petites voitures et courir en rond. Elle se creuse à la mémoire pour retrouver son nom, mais fichu blanc. Elle n'avait jamais été très douée avec les enfants. « Vous voulez un smoothie aux fruits ?» demanda le garçon. Ses pieds se balançaient, ses épaules tanguaient. Il expliqua à toute allure, sans reprendre son souffle. « Je peux faire banane, fraise, framboise, myrtille, peut-être raisin, mais pas orange, c'est trop dur à écraser. » Il se remit à pilonner ses fruits avec sa cuillère en plastique, toujours en se balançant. Didi commençait à savoir déchiffrer certains signes. D'abord, même si le garçon restait assis à la table, il était agité, très agité. Une vraie grenade qui n'attendait que d'être dégoupillée. Ensuite, il n'était pas le seul. Deux enfants en roller se poussaient et se bousculaient dans le couloir, tandis qu'un troisième, assis sous une table, se frappait la tête contre le mur. Comment est-ce qu'ils appelaient l'atmosphère du service déjà ? Le milieu ? Didi n'était pas spécialiste, mais même de son point de vue à elle, le milieu était louftingue aujourd'hui. Karen avait repéré celui qui se frappait la tête. « Jamal !» lui dit-elle avec autorité. « Ça suffit. Pourquoi tu ne viendrais pas avec Benny et moi ?»« Allez, Jamal. Benny va te faire un smoothie. Qu'est-ce que tu voudrais comme parfum ?»«
Mange, 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 mange !»
psalmodia Benny en tendant sa première préparation à Karen. L'infirmière la prit en le remerciant d'un sourire.
« Mange, 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 mange !»
Fascinée, Didi vit Karen en avaler une bonne grosse cuillerée sans jamais se départir de son sourire. Benny applaudit avec jubilation. Jamal finit par sortir dessous l'autre table pour prendre part aux festivités. En un clin d'œil, Karen l'installa avec de quoi participer à l'atelier fruits écrasés. Puis elle demanda à une collègue de la remplacer à la table et se libéra pour rejoindre Didi dans le couloir. « Je ne sais pas combien on vous paie, mais ce n'est pas assez. » dit Didi à Karen. L'infirmière eut un faible sourire. « Croyez-moi, on m'a donné pire à manger. Mais vous avez avalé ça ? Vous ne pouvez pas vous tirer d'un truc pareil en faisant semblant. Vous avez des enfants, commandant ? Non. Eh bien, un jour, si vous en avez, vous comprendrez. » Hautaine et cassante, le défi stimula Didi. « Chez vous ou chez moi ? » demanda-t-elle en désignant d'une part les locaux de l'administration et d'autre part le bout du couloir où son équipe avait pris ses quartiers. Karen leva un sourcil, certainement tentée de lui rappeler qu'en tout état de cause, elle était partout chez elle, mais avec un soupir, elle finit par montrer ses bureaux administratifs. Elle trouva la clé dans le trousseau qu'elle portait autour du cou et ouvrit. Didi lui emboîta le pas. « Depuis combien de temps connaissez-vous Lightfoot ?» demanda Didi alors qu'elle pénétrait dans le petit labyrinthe de pièces. Karen l'emmena dans une minuscule salle de repos où elle pouvait s'asseoir à une table. « 2 ans. » Réponse concordante. « Comment l'avez-vous rencontré ?»« Par les parents d'un enfant hospitalisé ici. Leur fils s'amusait à attraper des grenouilles pour leur mettre des pétards dans la bouche et allumer la mèche. Il aimait aussi couvrir les murs de leur maison de dessins de sa mère trucidés par différentes méthodes. » Incroyable les détails qu'il arrivait à rendre rien qu'avec des crayons rouges. Également concordant. Quel âge avait l'enfant ? Demanda Didi par curiosité. 10 ans. Ça fait peur. J'ai vu pire, mais les médicaments n'avaient aucun effet sur lui et ses parents étaient affolés. Alors ils ont fait appel à Andrew. Au début, j'étais sceptique, mais Andrew était calme, courtois, respectueux de notre personnel et des autres enfants. Et je dois dire qu'en moins de 3 semaines, nous avons noté des progrès sensibles dans le comportement du garçon. Des incidents qui, avant, l'auraient mis dans une colère noire, étaient maintenant accueillis avec plus de tolérance. On voyait qu'il se crispait, mais ensuite il se mettait à marmonner « Trouver la lumière, 7 anges qui me prennent dans leurs bras ». Il se détendait, ce qui est une prouesse remarquable pour un enfant psychotique à ce point. Naturellement, j'ai commencé à poser des questions à Andrew sur son travail, et beaucoup de nos médecins en ont fait autant. Qu'en pense-t-il ? La plupart n'y voient rien à redire. La médecine commence à découvrir le rôle de l'amour et du rire dans le processus de guérison. De là à admettre que la foi et la spiritualité peuvent aussi y contribuer, il n'y a qu'un pas. Les anges ont guéri un enfant perturbé. Karen sourit. Savez-vous tout ce qu'il y a à savoir sur l'univers ? Parce que dans ce cas, vous êtes plus maligne que moi, commandant. Didi lui jeta un regard mauvais. Andrew s'est occupé de combien de vos patients ? Faudrait lui poser la question. Je recommande rarement ses services moi-même. La plupart du temps, ce sont d'autres parents qui le font. Il semblerait qu'il ait travaillé pour les Harrington. Karen ne répondit rien. Daniel a laissé entendre qu'il avait contrarié la prise en charge de leur fils en préconisant qu'il quitte l'hôpital avant que les médecins ne l'estiment prêt. Karen haussa les épaules. On était dans la zone grise. Ozzy avait indéniablement fait des progrès. J'aurais aimé avoir plus de temps pour m'assurer que son récent changement de comportement était durable, mais il jugeait plus important de lui faire retrouver son environnement familial. Les deux arguments se tenaient. D'ailleurs, Ozzy n'est jamais revenu ici. Je suis donc amenée à en déduire que la méthode d'Harrington a marché pour leur fils. Andrew a été efficace pour lui. Les Harrington ont été assassinés. Par le père, je croyais. Nous n'en sommes pas sûrs. Karen montra pour la première fois des signes d'hésitation. Ses mains retombèrent sur la table. Elle cligna des yeux derrière ses verres à monture métallique. « Vous voulez dire Ozzy ? C'est possible. » Loin de défendre Ozzy, l'infirmière soupira. « Difficile de savoir avec ses enfants. Ce n'est pas par faiblesse qu'ils n'arrivent pas à se maîtriser. Il présente des différences physiologiques, des problèmes cérébraux, hormonaux, génétiques. Et nous avons si peu de solutions, si peu d'outils à notre disposition. C'est là qu'intervient Lightfoot, le beau chevalier blanc qui promet de sauver des enfants en perdition tout en réduisant votre facture de médicaments, tout pour plaire. Comme la surveillante ne répondait pas, Didi poussa un cran plus loin. « Vous couchez avec lui ?»« Mon mari s'y opposerait. »« Peut-être qu'il l'ignore. » »« Ma conscience s'y opposerait, » dit Karen en secouant la tête. « Je comprends que vous soyez sceptique au sujet d'Andrew. À bien des égards, son physique et son passé me laissaient plutôt méfiante. Mais quand on le voit avec les enfants, il est vraiment tendre, d'une très grande patience. Il ne se contente pas de les relaxer, il leur apprend à se relaxer tout seul. Je n'aurais jamais cru que je me retrouverais à promouvoir la purification des énergies en milieu hospitalier. Et pourtant, ces résultats m'inspirent le respect. » Didi se renfrogna, refusant de se laisser convaincre. Parlons des autres membres de l'équipe. Daniel, par exemple. Andrew est séduisant. Elle est jeune et jolie. Faudrait lui poser la question. Elle est un peu déboussolée, fit remarquer Didi. Karen ne mordit pas à l'hameçon. Faut dire, continua Didi sur un ton badin, avec son père qui a assassiné toute sa famille sauf elle, c'est plutôt lourd à porter. Et maintenant, elle s'occupe de tout un service d'enfants violents. On croirait que la tragédie lui est nécessaire. Dans un premier temps, Karen resta silencieuse, puis... Dans la police, vous ne voyez pas des collègues qui descendent d'une longue lignée de policiers? Les fils, les filles, les nièces, les neveux d'autres policiers? Si. C'est pareil dans notre métier. Si on veut creuser, la plupart de nos employés ont des histoires à vous briser le cœur. Ils n'ont pas connu le bonheur dans leurs plus jeunes années, et cela les incite à protéger chez d'autres l'enfance qu'ils n'ont jamais eue. Vu sous cet angle, Daniel n'est pas une exception dans le service, plutôt la règle. Vraiment ? Quelle est l'histoire de Greg ? Greg ? Ce nom semblait particulièrement la surprendre. Je suis pas sûre qu'il en ait une, il n'est pas du genre à parler de sa vie personnelle. Depuis combien de temps travaille-t-il ici ? 5 ans. Des plaintes ? Des difficultés ? Pas la moindre, assura Karen. Il est calme, consciencieux, épatant avec les enfants. Apprécie à la fois des adultes et des enfants, ce qui n'est pas le cas de tous les membres de l'équipe. Les adultes? Les parents. Certains chez nous... Karen hésita. Certains font ce métier parce qu'ils ont un excellent contact avec les enfants. Malheureusement, ce sens du contact ne s'étend pas toujours aux adultes. Didi médita cette idée. Greg, le prof de gym, était beau, musclé, sportif. Elle était prête à parier que certains adultes avaient un contact privilégié avec lui. Quelles sont les conditions requises pour être éducateur ? Demanda-t-elle en sortant son carnet à spirale pour prendre des notes. Faut-il passer un brevet particulier, obtenir un agrément ? Que pourrait-elle demander à Phil de vérifier dans le passé de Greg ? La surveillante secouait la tête. Naturellement, nos infirmières possèdent des diplômes et un agrément. La seule chose qu'on demande aux éducateurs, c'est un niveau bac et beaucoup d'énergie et de créativité avec les enfants. Vous voulez rire ? La majorité de votre équipe se compose d'éducateurs et vous êtes en train de me dire qu'ils ne reçoivent aucune formation particulière. Karen la regarda en face. Commandant, quel module d'enseignement théorique pourrait préparer quelqu'un aux enfants que nous avons ici ? Un point pour elle. Greg a de la famille ? Demanda Didi d'un air sombre. Il n'en parle pas. Une petite amie ? Je ne sais pas. Donc il n'a Dieu que pour Daniel, conclut Didi. « Je ne me mêle pas de la vie privée de mon personnel, » répondit Karen avec froideur. « Ah bon ? Parce que tout le monde ne parle que de ça. Hein. Greg dit oui, Daniel dit non, et le manège continue. Ça flirte beaucoup sur le temps de travail, on dirait. Vous ne pouvez pas approuver. » Je n'ai jamais vu ni l'un ni l'autre se comporter autrement que de manière professionnelle. « Vous devriez peut-être sortir plus souvent de vos bureaux. » La surveillante lui jeta un regard noir. Didi attendit un instant, puis décida qu'elle en avait assez de tourner autour du pot et à la droite au but. Vous ne trouvez pas bizarre que deux familles en relation avec ce service aient été assassinées à peu près jour pour jour à la date où la famille d'une de vos employées a été assassinée ? C'est bizarre, commença Karen. Et ensuite, la coupa Didi, une fillette a été retrouvée pendue hier soir et elle aussi se trouvait en relation avec cette même infirmière dont la famille a été assassinée il y a presque exactement 25 ans. Encore une coïncidence ? Ça arrive. Vraiment ? Combien d'enfants avez-vous retrouvés pendus dans l'hôpital? Combien de vos anciens patients ont été assassinés? Karen ne répondit rien. Elle semblait aussi fatiguée que Lightfoot. Après un soupir, elle prit une pile de dossiers sur la table, en sortit un relevé de présence et regarda Didi. « Quand les Harrington ont-ils été tués ? » demanda-t-elle. « Mercredi ? Jeudi ? Jeudi soir. » L'infirmière consulta le relevé. Daniel travaillait ce soir-là. En fait, elle a enchaîné deux gardes, la nuit du jeudi et la journée du vendredi. « Quels sont les horaires de nuit ? » 19h, 7h du matin. Didi médita cette idée. Les Harrington étaient sans doute morts à peu près à l'heure du dîner. Vu le temps nécessaire pour anéantir toute une famille, effacer les traces. Venir de Dorchester à Cambridge. À quelle heure a-t-elle commencé son service ? Elle est arrivée à 6h30 et s'est préparée à prendre son poste. Et vendredi soir ? Karen se mordit les lèvres. Officiellement, Danielle a fini sa journée à 19h. Mais elle est restée dans le service, elle a fait une réunion de synthèse avec moi et elle a complété des dossiers jusqu'à 11h passées. C'est là qu'elle a eu un affrontement avec Lucie qui faisait une crise violente. « Les bleus dans le cou de Daniel », se souvint Didi. « Exactement. » Donc même si elle n'était pas de garde, elle était là, et je l'ai noté, conformément au règlement de l'hôpital. Autour de Didi de pincer les lèvres. Autrement dit, Daniel avait un alibi à la fois pour le meurtre des Harrington et pour celui des Laraquette Solis. « Elle travaillait hier soir au moment de la disparition de Lucie », remarqua Didi. « Exact. » Bon, vous allez peut-être me trouver débile, mais vous me dites qu'elle a travaillé dans la nuit de jeudi à vendredi, la journée du vendredi, en s'attardant jusqu'à plus de 11h du soir, et qu'elle était de retour pour la nuit du samedi. Ça fait beaucoup d'heures en peu de temps. Notre personnel cherche souvent à regrouper ses gardes et à les enchaîner pour optimiser ses journées de repos. 3 jours de travail, 5 jours de liberté, et ce genre d'arrangement. Didi regarda l'administratrice avec de grands yeux. Daniel a aussi beaucoup de mal à décrocher. Concéda Karen, surtout à cette période de l'année. Qui d'autre connaît son passé ? Tout le monde. Tout le monde ? Son histoire sort du lot. Même ici, où on voit beaucoup de drames. La plupart des parents finissent aussi par apprendre ce qui lui est arrivé. Les bavardages, la rumeur, on ne changera pas les gens. Et Greg, le prof de gym ? Est-ce qu'il travaillait jeudi soir ou vendredi ? Nouvelle lecture du planning. Pas jeudi soir. Vendredi, il a fait la journée, 7h, 19h. Et puis bien sûr, il travaillait hier soir, quand Lucie... L'infirmière ne termina pas sa phrase. Didi digéra l'information. Ainsi donc, Daniel avait un alibi pour les meurtres des Harrington et de la Laraquette Solis, mais pas Greg. Bon à savoir. Elle reprit son ton badin. Alors, qui sera le prochain à votre avis ? Pardon ? Didi haussa les épaules. Les Harrington ont été assassinés jeudi soir, la famille Laraquette Solis vendredi soir, Lucie a été pendue samedi soir. Didi consulta sa montre. Sera bientôt 5h du soir. J'imagine qu'on a quoi, 1, 2, 3 heures devant nous avant le début des animations du dimanche soir ? Un autre enfant ici ? Une autre famille dehors ? Le compte à rebours est lancé, faites vos jeux. Karen la regardait avec effarement. Vous croyez que je suis ici pour m'amuser ? Reprit Didi. Vous croyez que j'ai rien de mieux à faire que de terroriser le valeureux personnel d'un service de pédopsychiatrie ? Des familles sont en train de mourir. Des enfants sont assassinés. Alors maintenant, dites-moi ce qui se passe pour que mon équipe puisse enrayer la mécanique. 5h, Karen. Ne me demandez pas qui sera mort à 6. Et là, presque comme si quelqu'un avait entendu ce qu'elle disait, un premier cri retentit à l'extérieur des locaux administratifs. Puis un deuxième, un troisième. Des plaintes stridentes et affolées qui se mêlèrent bientôt à un cœur de hurlements terrifiés. La salle commune, s'exclama Karen. Déjà debout, elle attrapa ses clés autour de son cou et se ruait vers la porte. Sur ses talons, Didi distinguait maintenant des mots.
Le diable ! Hurlaient les enfants. « Diablo, está aquí, está aquí. Le diable est ici !»